Merci à tous, bienvenue à cette conférence sur le secret derrière la porte, Secret Beyond the Door de Fritz Lang, un film de 1947 que vous avez vu normalement, qui est passé, qui a été projeté hier au festival, et un film tout à fait étonnant qui, dès son titre, résonne d'un symbolisme assez assez trouble, puisque le secret derrière la porte, c'est évidemment une formule qu'on pourrait reprendre pour plein d'autres situations, qui est à la fois, je dirais, le socle de la personnalité de chacun. Chacun a en lui un secret qui est fermé derrière sa porte, en quelque sorte, mais c'est aussi le fondement, pour Fritz Lang en tout cas, et pour une grande partie du cinéma ici concerné, qui serait le cinéma américain, le cinéma hollywoodien, celui des studios, on va y revenir, mais qui serait aussi le socle de la fiction. Hein. Toute fiction est elle-même bâtie sur un secret, sur une révélation qu'on retarde le plus possible, et la porte qui cache ce secret est aussi évidemment tout l'art des cinéaste, scénariste, acteur, pour donner accès à ce secret. Donc, avant de revenir plus précisément sur le film, de voir un petit peu comment il se construit, on peut commencer par parler de son réalisateur, Fritz Lang, qui n'est pas n'importe qui, bien au contraire, qui est un des très grands cinéastes de l'histoire du cinéma, cinéaste majeur, qui a une carrière extrêmement riche, qui s'étend de la fin des années 10, 1919 plus exactement, où il commence à tourner des films, jusqu'en 1960, c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle. Fritz Lang, il naît en 1890, donc à la fin du XIXe siècle, à peu près en même temps que le cinéma, à Vienne, en Autriche-Hongrie, à l'époque. C'est quelqu'un qui va traverser le XXe siècle, qui va construire une œuvre tout à fait emblématique de ce qui seront les problématiques du siècle. C'est quelqu'un qui va vraiment voir la part maudite du XXe siècle, qui va essayer de comprendre comment le comportement humain est infléchi par la technologie qui se développe énormément à ce moment-là, et qui va essayer d'observer quelles sont les forces qui agissent sur l'individu. Et ces forces renouvelées, je dirais, par l'arsenal technologique du XXe siècle, par les nouveaux outils de communication, par tout ce qui influe à ce moment-là sur les êtres. Donc ça, ça va être une part extrêmement importante de son œuvre. Pour présenter un petit peu plus précisément, alors je vous ai dit qu'il était né en 1890 à Vienne. Il fait des études d'architecture, Fritz Lang. C'est pas un détail anodin quand on a vu Le secret derrière la porte, puisque vous savez qu'un des personnages, Marc Lamphier, est architecte lui aussi. Et évidemment, l'une des caractéristiques fondamentale de l'art de Fritz Lang en tant que cinéaste, c'est que ses films sont des architectures. Ils sont bâtis par l'espace, dans des volumes très, très importants dramaturgiquement. Et voilà, tout ce qui est construction d'un espace, récit qui se développe à travers le déplacement d'un personnage dans l'espace, est une donnée fondamentale pour comprendre ses films. On y reviendra un petit peu plus en détail par la suite. Donc, études d'architecture, ensuite il rebascule vers les Beaux-Arts, il étudie les Beaux-Arts à Munich, il va passer une partie de sa jeunesse à Paris, dans le milieu artistique, il côtoie des peintres, il est lui-même illustrateur et caricaturiste, puis arrive la Première Guerre mondiale, où il essaye de revenir très vite en Autriche, il est rapatrié, il se retrouve engagé dans le conflit, la Première Guerre mondiale, donc c'est 14-18, hein, il part au front. Hein, Fritz Lang va participer au combat, Il en tirera même des blessures, hein. Il va être blessé au front, passer un séjour assez long à l'hôpital. On dit même, c'est quelque chose qui n'a pas été vérifié, donc je le laisse entre guillemets, mais qu'il a tiré de cette expérience de la guerre extrêmement marquante, hein. La Première Guerre mondiale est une boucherie, comme vous le savez, ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Et il en tire, bien sûr, non seulement une certaine vision sceptique et assez désespérée de l'espèce humaine, de ses comportements, et puis surtout une blessure à l'œil, hein, qui fait que il sera borgne toute sa vie. Il va même porter un monocle dans ses jeunes années de cinéaste. Il aura un bandeau par la suite, et il fait partie comme ça d'une espèce de club assez fermé qui est celui des grands cinéastes borgnes. Et ça a beaucoup fait réfléchir pas mal de critiques, d'exégètes qui ont pensé comme ça que avec John Ford, Raoul Walsh, Fritz Lang formaient un club justement de ceux qui avaient perdu un œil et qui en gardaient un d'autant plus actif et capable de viser les choses droit au cœur avec une précision et une force totalement inouïe. Voilà, donc perdre un œil quelque part, c'est un peu le paradoxe, renforce une vision, renforce une capacité à saisir le monde et à le filmer. Donc ça, c'est une chose, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que de sa participation, la guerre, ça l'a évidemment énormément marqué. Et c'est quelque chose, cette première guerre, où il voit... Vous savez, la Première Guerre mondiale, c'est un moment où l'arsenal technologique utilisé par les divers camps, notamment l'Allemagne et la France, est quelque chose de tout à fait nouveau dans la façon dont les hommes se font la guerre. Hein, il y a des canons, des obus, etc. C'est absolument terrible, c'est un vacarme de tous les diables. Et c'est la première guerre où la technologie, comme ça, contribue à un massacre de masse, véritablement. Et Fritz Lang voit ça, il en est absolument, terriblement marqué. Voilà, donc tout ça pour définir un peu un cadre mental, un cadre psychique qui est celui de cette époque-là. Après la guerre, c'est là où il va commencer à entrer en contact avec l'industrie du cinéma. Il est d'abord scénariste, c'est la rencontre d'un autre réalisateur qui l'introduit dans ce milieu, qui s'appelle Joe May, et... il faut savoir qu'à ce moment-là, on est à la fin des années 10, hein, vers 1917-1918, au moment où il a été démobilisé pour ses blessures. Le cinéma allemand, il est à Berlin, le cinéma allemand est extrêmement important. C'est l'un des premiers cinémas d'Europe et même du monde à ce moment-là. Car il faut savoir que l'Allemagne, notamment Berlin, est dotée d'une industrie qui va faire... que prendre de la puissance au cours des années 20, où il y a des installations de studios extrêmement conséquentes et où, esthétiquement, c'est vraiment le cinéma allemand qui va donner le « là », qui va non seulement avoir un retentissement mondial, puisque à cette époque-là, le cinéma est encore muet, donc il a moins de difficultés à circuler que quand il sera parlant et ancré dans une langue. Le cinéma muet, c'est un langage universel, il y a juste à changer les cartons pour que les films circulent, et ce qui fait qu'à ce moment-là, la puissance de production du cinéma allemand, le fait que des grands studios, notamment ceux de la UFA, sont installés à Berlin, qu'il y a des facilités de production tout à fait étonnantes, en fait un des principaux cinémas avec des très grands artistes mondialement reconnus, comme Murnau, par exemple, travaille aussi dans ces années-là, du milieu des années 10 jusqu'aux années 20. Il y a même beaucoup de cinéastes étrangers qui viennent travailler en Allemagne. Je pense notamment à Karl Theodor Dreyer, qui va venir réaliser un film en Allemagne, à Joseph von Sternberg aussi, qui viendra tourner un film à la UFA. Donc c'est quand même un centre de création et de production extrêmement fort, significatif, important à ce moment-là. Fritz Lang commence comme scénariste. Voilà, il écrit des films qui sont très inspirés des bandes dessinées de l'époque, un esprit d'aventure, etc. Il a lui-même fait beaucoup de voyages dans sa jeunesse, notamment en Afrique, un peu partout. Et voilà, il en tire une espèce d'imaginaire, comme ça, très bande dessinée, un peu d'explorateur. Et il écrit des scénarios assez marqués par ça. Surtout, il a été très marqué dans sa jeunesse, en tant que spectateur, par des feuilletons qui se tournaient à l'époque pour le cinéma, des choses qu'on appelait des séries, c'est-à-dire des films à épisodes en quelque sorte, qui étaient un peu les ancêtres des séries actuelles, si on veut bien, où voilà, il y avait une histoire en 8, 9, 10, 12 épisodes, et le spectateur était invité à revenir chaque semaine pour voir la suite de l'histoire. Et notamment, il y a quelqu'un qui a beaucoup brillé dans ce domaine, qui s'appelle Louis Feuillade, qui a tourné des séries comme Fantomas ou Les Vampires, peut-être que vous en avez entendu parler. Et Fritz Lang a vu Fantomas de Louis Feuillade. Il a été totalement marqué par ça. C'est des histoires criminelles, hein, de bandits, comme ça, de bandes organisées qui, dans Paris, commettent des crimes, des larcins, qui sont poursuivis par la police, voilà, des espèces d'histoires criminelles qui ont eu une grande influence sur lui. Il a été très admiratif, il l'a dit, de ces films de Louis Feuillade. Encore une fois, des séries qui étaient eux-mêmes très inspirées des romans populaires, des feuilletons populaires, d'un imaginaire comme ça qui était très lié au début du XXe siècle, à la Belle Époque, au développement des villes, où tout à coup le récit sériel devient quelque chose qui reflète comme ça la pluralité des villes, leur développement, le fait que des actions simultanées peuvent avoir lieu en différents quartiers, etc. Toute la modernité de l'Europe industrielle, de l'Europe qui se dresse comme ça avec des villes fleurons comme Paris, inspire évidemment les gens qui écrivent des histoires. Le feuilleton devient le récit de la grande ville, en quelque sorte, et de ses actions simultanées, de tout ce qui s'y passe en simultané. Le cinéma le reflète à travers les séries, et le sérial marque énormément Fritz Lang, qui en retiendra quelque chose. Je dis ça parce que ses premiers films sont très influencés par ça. Alors, ces deux premiers longs-métrages, on les a perdus, mais Fritz Lang commence dans le cinéma muet, ce qui n'est pas anodin pour un réalisateur. Il fait partie d'une génération qui commence dans le muet, c'est-à-dire qui pratique d'abord un art visuel, un art de l'image. Hein, la question du son est encore embryonnaire, mais c'est évidemment une génération, non pas de pionniers, parce qu'il arrive un peu plus tard, il arrive à la fin des années 10, mais quand même de gens qui vont participer au fait que le cinéma est un langage en train de se bâtir et que le côté primitif du cinéma muet, le fait d'avoir ce langage universel, de ce langage par l'image, par la lumière, par le visuel, comme ça, sont très importants. Ça a marqué une génération qui est à la racine, qui est à la source, hein, de l'art cinématographique. Beaucoup de gens qui ont écrit sur le cinéma, de critiques, d'exégètes, d'universitaires, se sont retournés sur le cinéma muet comme une sorte de source, de fontaine de jouvence, le moment, la période où tout s'invente, où tout se crée, et où le cinéma, à sa source, est encore plein de possibles, se constitue comme langage, et justement s'invente en quelque sorte à ce moment-là. Donc Fritz Lang y participe. Et parmi ses premiers films, le début de son œuvre en Allemagne est marqué d'abord par des films à l'esprit feuilletonesque, presque des feuilletons d'aventure, plutôt policiers, où, encore une fois, des bandes criminelles sont pourchassées, poursuivies à travers le Berlin de la République de Weimar, donc de l'entre-deux-guerres, en quelque sorte, hein, après la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième. C'est des films comme Les Araignées, par exemple, ou Les Espions. Alors, Les Araignées, c'est 1918, Non, 1919-1920. Et Les Espions, c'est 1928. Voilà, qui sont des films policiers à rebondissement, très marqués aussi par un esprit bande dessinée, avec des personnages extravagants, etc. Des héros qui changent de masque, des méchants insaisissables qui se tapissent dans les recoins de la société. Et voilà, une espèce de course-poursuite assez haletante, où sont mis en scène tous les moyens de ce début du XXe siècle, les moyens de communication, les voitures qui ont fait leur apparition dans les rues des villes, les moteurs, la technologie, etc. Tout ça, Fritz Lang s'en sert pour à la fois animer ses récits, mais aussi donner une sorte d'esprit de l'époque, quoi, capturer un esprit de l'époque. Et puis, il y a aussi des sujets mythiques. Il va faire les Nibelungen, par exemple, qui est une vieille légende germanique. Il y a une part d'imaginaire qui s'exprime dans les films de Fritz Lang. Il va notamment tourner un film qui s'appelle Les Trois Lumières, qui est très marqué par le symbolisme et qui participe à ce moment-là d'un mouvement qu'on appelle l'expressionnisme. On y reviendra peut-être aussi un peu par la suite. C'est assez important. Bien que Fritz Lang s'en soit défendu, le film intègre une esthétique très marquée avec une déformation des perspectives, des lignes presque hantées par le cauchemar et qui, voilà, répond à un mouvement pictural qui a précédé un petit peu le cinéma à ce moment-là, qui s'appelait l'expressionnisme, et où les sensations intérieures, les perturbations intérieures étaient exprimées, rejetées comme ça sur les toiles, et le cinéma va s'en inspirer, notamment pour un film très célèbre dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Le cabinet du docteur Caligari, de Robert Wiene, et qui est caractéristique de l'esthétique expressionniste. Donc l'expressionnisme va avoir un tel retentissement dans le cinéma de l'époque que, voilà, bon gré mal gré, tous les cinéastes, les techniciens vont être grosso modo influencés par lui. Fritz Lang ne l'a pas revendiqué, mais si vous prenez Les Trois Lumières, ce film-là, il, voilà, a une petite touche expressionniste. Tout ça pour vous dire que l'imaginaire, l'inconscient des sociétés de l'époque, le trouble qui marque la période de l'entre-deux-guerres et en Allemagne de la République de Weimar, cette espèce d'instabilité sociale. C'est une période qui est marquée par beaucoup de faits divers qui retentissent dans les journaux, des scandales financiers, une espèce d'accélération et d'intensification de la société qui semble un tissu prêt à craquer. Il faut dire que l'Allemagne, d'après le traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, est tenu par ce traité dans une situation presque impossible, économiquement dramatique, où il y a un chômage endémique qui règne sur la population, où d'énormes inégalités se créent entre des couches financières qui tout à coup font fortune, d'énormes banqueroutes. Enfin, c'est un moment de grande instabilité. Et c'est quelque chose qu'on ressent dans le cinéma de Fritz Lang, et même plus largement dans le cinéma allemand de l'époque, voire même dans d'autres courants artistiques. Je pense à un courant pictural comme la nouvelle objectivité, qui est marqué par des peintres comme Otto Dix, par exemple, qui vont vraiment retranscrire cette atmosphère extrêmement trouble, extrêmement agitée, électrique, où beaucoup de scandales éclatent dans la presse, etc., et qui est marqué voilà, par plein d'affaires, plein de même des scandales politiques, où on sent que voilà, le début du XXe siècle est une sorte d'emballement général, et que la catastrophe qui a été celle de la Première Guerre mondiale ne va pas tarder sans doute à se reproduire, et ce qui aura bien sûr lieu avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc tout cela, Fritz Lang l'intègre, le retranscrit, le traduit dans l'imaginaire qui est le sien, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup marqué par celui du feuilleton, etc. Et en quelques années, il forme d'ailleurs, une paire assez efficace avec une scénariste qui va devenir sa femme d'ailleurs, qui s'appelle Thea von Harbou, et qui contribue beaucoup à entretenir cet imaginaire très riche, très inspiré des mythes et légendes, etc., voire d'une forme d'exotisme aussi dans ses films policiers. Et quand vous voyez des films comme Le Docteur Mabuse, etc., il y a comme ça quelque chose de vraiment caractéristique. Donc, en quelques années, avec l'aide de cette scénariste Théa von Arbou, ils forment un duo très efficace, Fritz Lang devient l'un des principaux cinéastes allemands. Et vraiment, il se crée une place inédite dans l'industrie allemande. Plusieurs de ses films rencontrent le succès, et il va être à la tête d'un chantier considérable, énorme, immense, qui est le film Metropolis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou si vous l'avez vu, etc. Mais Metropolis, c'est une fable de science-fiction qui met en scène la création d'un robot qui devient la nouvelle idole de l'humanité ouvrière, etc. Et c'est un film monumental qui se projette dans le futur, et donc qui imagine la cité du futur dans des décors gigantesques. C'est un film très impressionnant. Et voilà, Fritz Lang est l'architecte en chef de cette entreprise de cinéma phénoménale qui va avoir encore une fois un éclat et un retentissement très fort. Et voilà, il est un peu au sommet, à la tête du cinéma allemand de cette époque. C'en est une des figures les plus importantes, car il est capable de diriger de tels chantiers. Voilà. Ça pour vous dire à quel point il était. Voilà, c'était une figure majeure qui s'est imposée en quelques temps. Metropolis, c'est 1927, donc à peu près, grosso modo, 10 ans après ses débuts dans le cinéma. Et à ce moment-là, c'est une sorte de démiurge, voilà, d'artiste total, capable de mener à bien des chantiers pharaoniques comme ce Metropolis. En 1927 jusqu'en 1933, l'Allemagne va basculer dans le nazisme. C'est un peu la montée du nazisme. Hitler arrive au pouvoir en 1933. C'est le moment où Fritz Lang réalise un film absolument incroyable qui s'appelle Le Testament du docteur Mabuse, et où il va refléter beaucoup de caractéristiques de l'époque à travers un récit qui est lui-même marqué par un peu toutes les percées scientifiques de l'époque, qui met en scène un génie du mal, le docteur Mabuse, qui est censé être mort au début du film, mais qui se réincarne à travers tous les outils de communication, le téléphone, le télégramme, etc., qui devient presque un fantôme, un spectre, voilà, l'ombre du mal qui règne sur la société. Et à travers la voix du docteur Mabuse, Fritz Lang fait entendre des mots qui ressemblent énormément au discours d'Hitler à l'époque. Donc c'est un film qui se confronte d'une manière indirecte à la politique de son temps, qui dresse un portrait terrible de la société et qui montre le progrès commun entre les forces du nazisme absolument sanguinaire et en même temps l'espèce de connivence qu'il y a avec le développement de la technologie, de la société qui s'accélère, etc. Et tout converge vers une sorte de catastrophe à venir. Le film est bien sûr repéré par les autorités qui ont un œil sur Fritz Lang, qui raconte lui-même qu'il est convoqué par Goebbels à un moment, qui lui le met face à un choix. Alors Goebbels, qui était le ministre de la propagande à cette époque-là, le ministre de la propagande d'Hitler, qui le met face à un choix, soit en quelque sorte, on vous empêche de faire des films comme le docteur Mabuse, soit vous devenez le chef du cinéma allemand et vous nous faites de formidables films de propagande nazie parce que vous avez cette capacité-là à mobiliser les foules, à subjuguer les spectateurs avec vos films. Bon, on ne sait pas si ce rendez-vous a vraiment eu lieu, c'est ce que Fritz Lang a beaucoup raconté lui-même, sans doute aussi pour agrémenter sa légende en quelque sorte, mais voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que 1933, Le Testament du docteur Mabuse est son dernier film allemand. C'est un film qui va tellement loin dans les allusions au pouvoir nazi en place que ça rend la situation de Fritz Lang très précaire à ce moment-là. Il va être obligé de partir, il va être obligé de s'exiler. Il fait une petite escale en France en 1933-1934. Où il va tourner un film tout à fait étonnant qui s'appelle Lilium. Et puis, il continue son voyage et il part aux États-Unis. Et aux États-Unis, il commence une seconde carrière. juste préciser qu'à ce moment-là, au moment où voilà, il y a la montée du nazisme en Allemagne et les nazis prennent le pouvoir, il y a une émigration massive des artistes allemands, des créateurs allemands, de tous ceux qui ont fait le cinéma allemand. Certains étaient juifs, d'autres non, etc., et qui fuient vers Hollywood. Hein, et une espèce d'émigration massive qui fait que tout ce cinéma, toute la génération de l'expressionnisme, tous les techniciens qui ont construit les songes de l'ombre et de la lumière, qui ont peuplé le cinéma allemand des années dont je vous ai parlé, vont se retrouver à Hollywood, vont amener leur esthétique à Hollywood et vont marquer le cinéma américain. Alors, il y a des réalisateurs comme Lubitsch, comme Billy Wilder, qui se retrouvent là-bas, Fritz Lang, bien sûr. Il y a des techniciens comme le chef opérateur Karl Freund, qui crée des songes lumineux avec des contrastes très forts, très marqués par l'expressionnisme. Enfin, voilà, toute cette génération-là émigre. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve à Hollywood et le cinéma américain va s'en retrouver marqué de manière indélébile. C'est notamment toute une esthétique qu'on va retrouver dans un genre, le polar, et plus particulièrement dans une déclinaison du polar qui s'appelle le film noir. Le film noir qui va intégrer un petit peu toutes ces percées, toutes ces trouvailles esthétiques. Bon, Fritz Lang se retrouve à Hollywood. C'est un réalisateur de prestige, de renom. Comme je vous l'ai dit, il avait réalisé de très grandes choses en Allemagne. Mais à Hollywood, c'est pas comme en Europe. Le système n'est pas le même. Le système est beaucoup plus industrialisé. Ce sont de grands studios qui se partagent un peu les plateaux hollywoodiens. Tout le monde est sous contrat. Il y a un fonctionnement comme ça qui est très rationalisé. On produit des films à la chaîne. Et le réalisateur, la figure du réalisateur, n'a pas la même stature qu'en Europe. Et Fritz Lang se retrouve non pas en bas de l'échelle, il ne faut pas exagérer, mais à devoir, en quelque sorte, recommencer sa carrière dans des productions beaucoup moins amples, beaucoup moins confortables que celles qu'il avait en Allemagne. Il doit recommencer dans des films plus petits, plus modestes, et même dans une économie qu'on pourra qualifier de série B, hein, c'est-à-dire des petits budgets, petits et moyens budgets. Et il doit, en quelque sorte, c'est une seconde carrière qui s'ouvre à lui, plus modeste, plus obscure, mais pas moins intéressante, parce qu'il va évidemment transporter quelque chose de ses thématiques, de ses obsessions. Il va beaucoup travailler dans les polars, il va faire des films noirs, des films sociaux aussi, comme Fury ou J'ai le droit de vivre, films noirs comme Règlement de compte, The Big Hit, voilà, des films de propagande anti-nazi aussi, parce qu'évidemment, il s'engage avec des films comme Chasse à l'homme ou Les bourreaux meurent aussi, qui sont clairement des films positionnés anti-nazis, des films pour convaincre la population américaine du drame qui se passe en Allemagne à ce moment-là. Et donc voilà, il refait sa carrière, une carrière un petit peu plus obscure. Ce qui se dégage un petit peu de ce parcours-là, il va évidemment rencontrer aux États-Unis face au système des studios, à la figure du producteur qui est la plus puissante dans le système américain, va rencontrer beaucoup de frustration, il sera brimé, il n'aura pas toujours le montage final, ses choix seront un peu plus soumis à une forme de négociation, etc. Il va souvent buter contre ce système et quand même garantir une forme de personnalité malgré tout. Fritz Lang, comme je vous le disais, c'est une œuvre qui s'intéresse aux forces qui pèsent sur les individus, à comment, quelque part, le libre arbitre et la volonté sont des choses très relatives, qu'il y a à la fois des forces sociales, économiques, obscures, intérieures, qui agissent sur l'individu, qui font basculer son destin, qui le portent vers la violence. Et souvent, cette question de la fatalité, voilà, le fait que quiconque est soumis à une forme de fatalité, fatalité et notion de destin qui se scellent dans la mort, soit la mort de l'individu, soit le fait qu'il va être amené lui-même à tuer. En tout cas, la fatalité de la violence est quelque chose qui pèse sur les sociétés humaines. C'est un spectre qui menace tout un chacun. Chacun a en lui le ferment de la violence, peut en être l'outil ou la victime, en quelque sorte, et les deux positions sont tout à fait réversibles pour Fritz Lang. Et il va étudier comme ça quelles sont les forces à l'œuvre, sociales, technologiques, psychologiques, qui agissent sur l'individu et font qu'il n'est pas complètement libre de son destin, pas complètement maître de son destin, voire qu'il en est souvent le pantin, le jouet, la marionnette. Voilà, ça c'est quelque chose de très important qui est au cœur de l'œuvre de Fritz Lang, qui va faire que le meurtre, les morts violentes, les assassinats sont des motifs extrêmement présents qui reviennent systématiquement. Tout ce que je vous dis là, c'est bien sûr un sous-texte pour le film qu'on va pas tarder à aborder. Qu'on aborde d'ailleurs tout de suite. Je vous dis juste simplement, pour compléter le parcours de Fritz Lang, qu'il tourne son dernier film aux États-Unis en 1956. C'est L'invraisemblable vérité, Beyond a Reasonable Doubt. Bon, pardon pour mon accent anglais qui est un peu foireux. Mais voilà, c'est son dernier film américain. C'est vraiment un film à tout petit budget. Et ensuite, il retourne en Allemagne, où il va faire une espèce de grosse production complètement extravagante, un diptyque censé se passer dans une Inde fantasmatique, qu'on appelle le diptyque indien, qui est fait le tigre du Bengale, et le tombeau indien. Et puis, un dernier film en 1960, son dernier film, c'est un film qui vient clore la trilogie du Docteur Mabuse, commencé en 1922 avec Docteur Mabuse le joueur, continué en 1933 avec Le Testament du Docteur Mabuse, et 1960, il tourne le diabolique Docteur Mabuse, qui est son dernier film. Voilà. Et il décède en 1976 à Beverly Hills, aux États-Unis, où il sera retourné, où il a une grande villa, voilà, qui est un peu le fruit de ses années de labeur. Et on peut, voilà, juste avant d'aborder le film, dire dans un dernier mot que l'influence de Fritz Lang sur les générations suivantes d'artistes, de cinéastes, est énorme. Les gens de la Nouvelle Vague l'admire énormément, le porte au pinacle. Jean-Luc Godard le fait jouer dans son film Le Mépris en 1963, où il joue le rôle du grand réalisateur. Des gens comme Wim Wenders lui vouent une admiration sans borne. Aux États-Unis, c'est un cinéaste comme William Friedkin qui, dans ses débuts de réalisateur, va l'interviewer, va faire une grande interview avec lui. Voilà, il a une influence extrêmement considérable. C'est vraiment l'une des toutes premières figures de l'histoire du cinéma. Fritz Lang, c'est un indispensable. Et une école critique comme celle des McMahonistes, qui a été assez influente à une époque, en a fait l'un des quatre piliers de son carré d'as, en quelque sorte. Hein, où il y avait, je ne sais plus exactement, Joseph Losey, Raoul Walsh, et puis Fritz Lang. Voilà, j'en manque un. Ça devait être Otto Preminger, le quatrième. Mais voilà, c'est pour vous dire le prestige et l'importance qu'il a. Voilà, alors maintenant, on va en venir un peu plus précisément au secret derrière la porte, qu'on va bien sûr décortiquer. Mais avant, quelques mots sur la genèse du film. Enfin, la genèse, dire quelques mots d'introduction. Film de 1947, donc, qui correspond à peu près au milieu de la période américaine de Fritz Lang. On est à mi-parcours. Hein, et à ce moment-là, 1947, c'est un film qui vient clore une trilogie qui a été entamée un peu auparavant avec La femme au portrait et La rue rouge, qui était une adaptation d'un film plus ancien de Jean Renoir, qui s'appelle La chienne. Mais ces trois films forment une trilogie, parce qu'ils sont avec, à l'affiche, l'actrice Joan Bennett. Et ils sont produits par le producteur Walter Wanger. Et Wanger, Joan Bennett et Fritz Lang avaient tous les trois monté une société de production ensemble, qui s'appelle Doria Productions, qui était censé garantir à Fritz Lang un peu plus d'indépendance. Il souffrait beaucoup du manque d'indépendance du réalisateur dans le système hollywoodien. Comme je vous l'ai dit, ça a fait naître en lui beaucoup de frustration. Et avec l'actrice et le producteur, ils montent une société qui leur permet comme ça d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Ça va s'arrêter là, puisque Le secret derrière la porte est un tournage houleux où des tensions montent entre les trois. Ils se disputent beaucoup, voilà, leurs vues divergent. Et ça va éclater. Et juste après ce film, Fritz Lang va retomber dans l'ornière du travail de studio. Voilà. Mais il faut dire que c'est dans la carrière américaine de Fritz Lang le film qui a le plus gros budget, qui est le plus à l'aise en quelque sorte. Et quelque part, quand vous voyez le film, ça se voit un peu, parce qu'il y a une variété de décors qui est assez impressionnante. Il y a toute une partie au Mexique où il reconstitue une sorte de marché mexicain. Il y a évidemment le décor central du film qui est la grande maison, quasiment le manoir de Mark Lamphier, sa maison familiale où sont cachés de nombreux secrets. Et puis, cette maison est filmée un petit peu comme un labyrinthe, comme un dédale, hein, où va s'enfoncer le personnage de Cilia, qui est joué par Joan Bennett. Voilà, il y a comme ça une construction spatiale qui est tout à fait étonnante et surtout vaste, quoi, hein. C'est un film qui a les moyens, justement, de construire tout ça, jusqu'à la collection de pièces... les scènes de crime dont Marc fait la collection et qui sont cachées dans les fondements de la maison. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un budget assez conséquent. Il clôt une trilogie qui était axée sur le désir, mais le désir un peu malade, le fantasme, la projection fantasmatique de l'autre, la façon dont on vient à s'imaginer un partenaire amoureux et presque à le constituer de toutes pièces. Dans les deux premiers films, La femme au portrait et La rue rouge, c'était un peu la perspective masculine à travers le personnage les deux personnages joués par Edward G. Robinson, qui est un grand acteur hollywoodien. Et là, dans Le secret derrière la porte, c'est la perspective féminine. C'est le personnage de Joan Bennett, Cilia, qui va conduire le récit. Et qui est un peu qui a les rênes en main en quelque sorte. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, encore un peu de contextualisation et d'accompagnement sur un petit peu les veines que représente le film. Le secret derrière la porte appartient à une veine hollywoodienne qui va se développer dans les années 40. Peut-être qu'on vous en a déjà parlé. Et qui est une veine psychanalytique, c'est-à-dire qui va en quelque sorte intégrer la psychanalyse, la théorie freudienne, la théorie de la psychanalyse à son récit. Alors un très bref et très partiel résumé sur la psychanalyse, je vais pas vous faire un cours sur la psychanalyse, ce serait un peu prétentieux, mais vraiment pour donner quelques pistes. C'est un champ d'étude, la psychanalyse, qui se développe, qui naît à la fin du XIXe siècle, à peu près au même moment que le cinéma, hein, 1895 à peu près. On a dit que Fritz Lang était né en 1890. Quelque part, voilà, la psychanalyse est un champ d'étude sur le fonctionnement de l'esprit humain, initié par celui qui en est à la fois le maître et la source, c'est Sigmund Freud. Qui a écrit de nombreux ouvrages à ce sujet, qui l'a développé comme un véritable champ d'études, et qui s'intéresse évidemment au fonctionnement de l'esprit, à ses zones enfouies, ce qu'on va appeler l'inconscient, qui est la grande découverte de Freud, qui va placer l'inconscient comme une source possible, une explication des comportements humains. La psychanalyse est une thérapie qui vise comme ça à fouiller un petit peu les dysfonctionnements de l'esprit, ces zones d'ombre, ces zones troubles. Freud propose une sorte de structure de l'esprit humain entre la conscience, le subconscient, l'inconscient, ou structure qui est reprise dans le surmoi, qui est un peu le visage social qu'on présente à la société, le ça, qui est la zone inconsciente et à laquelle on n'a pas du tout, sur laquelle on n'a aucune prise et où fleurissent les pulsions, et le moi, qui serait la conscience en quelque sorte. Bon, tout ça est une, est un champ d'étude à part entière, c'est extrêmement complexe, mais ça va accompagner et innerver complètement le cours du XXe siècle. Hein, c'est une sorte de révolution théorique, une nouvelle pensée qui apparaît et qui, bien sûr, va beaucoup plus loin que les études psychologiques qui avaient pu être proposées avant tout au long du XIXe siècle. Ça aborde l'esprit humain avec une finesse, une précision, etc. C'est toute une théorie qui sera beaucoup critiquée par ailleurs, mais qui va accompagner le siècle, tout comme le cinéma. Et il y a beaucoup de zones de contact entre les deux. Le cinéma, lui aussi, s'intéresse à l'imaginaire, essaye d'explorer les tréfonds de l'esprit humain, de voir ce qui, dans les traumatismes, dans les blessures de l'esprit, influe sur les comportements, etc. Donc voilà, il y a une espèce de parallélisme entre les deux, d'influences multiples. Et dans les années 40, la psychanalyse arrive en fanfare à Hollywood. Les scénaristes hollywoodiens y voient un récit. La théorie freudienne est prise comme une sorte de récit. Et vont apparaître des films qui vont faire clairement référence explicitement à la psychanalyse et qui vont, en proposer une dramatisation. On va dramatiser la psychanalyse. Et ce qui correspond assez bien au récit hollywoodien, c'est que l'analyse, la position analytique du patient qui va entrer en discussion avec son psychanalyste, eh ben, ça correspond un peu à une enquête. Et souvent, le film policier, dans ces années 40, c'est des films policiers qui vont substituer à l'enquête traditionnelle avec une scène de crime qu'on va tenter d'élucider en remontant un petit peu tous les fils des indices, va substituer une scène mentale, qui est elle-même l'objet d'une enquête. Il faut enquêter, mais dans la structure d'un esprit, l'esprit étant un labyrinthe dont il faut essayer d'ouvrir toutes les portes, d'emprunter tous les couloirs pour remonter au crime initial, à une solution, à une clé. Il faut trouver la clé. Et ça va complètement insuffler comme ça le récit hollywoodien. On peut citer des films assez caractéristiques de l'époque. Des films qui intègrent la psychanalyse, c'est Le mystérieux docteur Edwards d'Alfred Hitchcock. La maison du docteur Edwards, pardon. N'hésitez pas à me corriger, des fois je m'embrouille avec les titres. La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock, Le mystérieux docteur Corvo d'Otto Preminger, vous avez Suddenly Last Summer, Soudain l'été dernier, de Joseph Mankiewicz. Il y a toute une veine qui se creuse et qui intègre cette nouveauté encore dans les années 40, parce qu'on dit que c'est c'est un champ d'études qui est né au début du XXe siècle, mais qui a mis un peu de temps à faire son chemin aux États-Unis et à intégrer, je dirais, elle est popularisée avec le cinéma. Le cinéma aide à la populariser, à lui faire atteindre une espèce d'audience de masse, en quelque sorte, grâce à la puissance de frappe qui est celle du cinéma à l'époque. Donc, il y a toute une veine de films qui se crée à partir de ça. Et on peut clairement rattacher Le secret derrière la porte, qui d'ailleurs, lors d'une scène de réception, une scène un peu mondaine, dans le manoir de Marc, fait clairement référence à Freud. Il est cité dans le film. Et en plus, Le secret derrière la porte se propose comme ça d'investir le monde des fantasmes, du désir, des désirs enfouis, de l'inconscient, du rêve. Il y a une part d'onirisme dans le film qui est extrêmement importante. Et tout cela, évidemment, résonne avec la théorie freudienne, avec la théorie de la psychanalyse, qui est vraiment déclinée sous plusieurs formes dans le film. On repérera on y reviendra, mais il y a des lapsus, des actes manqués, il y a des scènes primitives, tout ce qui fait partie un petit peu du lexique de la psychanalyse se retrouve Le secret derrière la porte. Voilà. Et puis, pour caractériser encore un peu le film, on va faire la deuxième heure, on va rentrer plus dans le détail du film, mais il faut dire encore une chose, c'est que, pour le rapprocher comme ça de champs, de courants qui ont traversé l'histoire du cinéma, mais on peut aussi qualifier le film de drame gothique. Il a quelque chose de gothique au fond de lui, gothique dans le sens, non pas dans le sens où on peut l'entendre aujourd'hui, mais parce qu'il récupère l'influence de la littérature gothique. La littérature gothique qui est née dans l'Angleterre victorienne et qui était une façon dans la littérature, par les écrivains de l'époque, de revenir à quelque chose, à une inspiration médiévale ou ancienne ou antique, et qui plongeait souvent de jeunes héroïnes un peu perdues dans des châteaux en ruine, dans de grandes bâtisses, des demeures perdues, hantées, etc., où il y avait plein de phénomènes inexplicables, et l'exploration de ces lieux, de ces dédales, de ces labyrinthes anciens, aux ruines inquiétantes, etc., gonflées d'ombre et parfois hantées de fantômes, a constitué ce qu'on a appelé la littérature gothique, gothique désignant le retour à un passé enfoui, ancien, etc., la référence à un passé médiéval quasiment. Hein. Et ça a pu être des œuvres comme Le Château d'Otrante, d'Horace Walpole, ou Les Mystères d'Udolf, d'Anne Radcliffe, par exemple. Hein, voilà, c'est tout un courant de la littérature anglaise qui a rejailli sur Hollywood, qui s'en est inspiré, hein, clairement. Et si on peut rattacher Le Secret derrière la porte à cette influence gothique, c'est bien parce que le personnage de Cilia va être lui-même aux prises avec une grande maison inquiétante où gisent de nombreux secrets qu'il faut explorer, dont il faut traverser les couloirs comme ça, et essayer de revenir jusqu'à la pièce secrète, la fameuse porte fermée à clé. Et donc voilà, on reconnaît là-dedans l'influence, les traits de la littérature gothique. Hein, ça, voilà, c'était souvent des films qui avaient assez de succès à Hollywood quand on s'inspirait un petit peu de cet univers-là. Deux références encore, et puis j'en passe au film. Mais dans son onirisme, dans le fait de toujours essayer de voir ce qu'il y a derrière l'esprit, de comment fonctionne l'esprit, Le Secret derrière la porte est très marqué par l'univers des contes, le conte, hein, le merveilleux parfois qui est investi par les contes. Je pense notamment à, il est fait référence dans le film à La Belle au Bois Dormant. Quand Cilia rencontre Marc, Marc lui dit qu'elle est comme la Belle au Bois Dormant, que jusqu'à maintenant elle n'a pas rencontré son prince, qu'elle vivait à New York comme endormie, etc. Il y a donc la référence à ce conte qui vient quand même imbiber le récit. Et puis, difficile de voir Le Secret derrière la porte sans penser aussi, j'imagine que ça, c'est une référence qui a dû vous traverser l'esprit, je pense, peut-être certains, c'est Barbe Bleue. Barbe Bleue, le conte de Grimm, quoi, hein, où un mari sanguinaire qui a tué toutes ses femmes tient dans sa demeure une pièce secrète dont il interdit à sa nouvelle femme d'ouvrir la porte. Hein, et un conte qui a été d'ailleurs beaucoup analysé par les héritiers, les disciples de Freud, notamment Bruno Bettelheim, comme une mise en scène du tabou, de l'interdit, hein, la pièce fermée à clé que l'épouse n'a pas le droit d'ouvrir, mais dont elle a un désir très profond de savoir ce qu'elle cache. Donc voilà, c'est la mécanique du tabou qui, en plaçant un interdit très fort dans le champ du quotidien, crée évidemment le désir de le transgresser. Voilà, ça c'est... Il y a à la fois le conte et les analyses qui ont été faites du conte par la suite, quoi. C'est évidemment... c'est central dans Le Secret derrière la porte, si on veut, parce que tout le film se construit autour de la pièce cachée dont Marc interdit l'accès, hein, qu'il tient fermé à clé, et qui va renverser complètement le récit à partir du moment où Cilia va s'y introduire. Voilà, donc on a un petit peu posé tout le décor, là. Désolé de cette longue mise en bouche, si on veut bien, mais ça a été, voilà, c'est vraiment pour poser un petit peu toutes les influences, tout le contexte, tout ce qui peut vous être utile quand on aborde Le Secret derrière la porte. Alors, comme je vous le disais, le film est une sorte d'enquête sur d'une jeune femme qui épouse un homme sur un coup de tête, qu'elle vient de rencontrer comme ça lors d'un voyage au Mexique, et dont elle ne sait rien, et qui va petit à petit découvrir une personnalité trouble, complexe, et qui est transporté dans un univers qui est le sien, à savoir sa grande maison, sa demeure, à Lavender Falls, dans la lointaine périphérie de New York. Et le fait d'intégrer cette grande maison va l'amener sur la piste d'une enquête. Elle va enquêter, fouiller cette maison, comprendre comment elle fonctionne, quelles sont les relations entre ses habitants, des habitants qu'elle découvre, hein, dont elle ne connaissait pas l'existence auparavant. Et cette exploration, une forme d'exploration et d'enquête, est évidemment une enquête sur la personnalité de l'homme qu'elle a épousé, une enquête sur son univers mental, son univers intérieur, la maison étant constamment la métaphore de l'esprit humain, en quelque sorte, de l'esprit qu'on va investir, qu'on va fouiller, qu'on va peler couche par couche, presque, pour essayer d'en trouver le fondement, la source, le trauma intérieur. Voilà, évidemment, tout cela est métaphorisé par la porte fermée, la porte qu'il faut arriver à crocheter, à ouvrir, hein, pour libérer le secret enfoui. Voilà, donc tout ça est assez, jusque-là, assez lisible. Il faut voir un petit peu comment le film est construit, comment, dès le début, il nous invite à investir le fonctionnement de l'esprit, à mélanger comme ça la réalité et le fantasme, et à travers le parcours de son héroïne, à faire refluer le rêve et l'imaginaire de chacune de ses actions. Et ça, c'est très intéressant comment le film est à la charnière, voilà, presque à mi-chemin, entre la réalité et l'imaginaire en permanence. Et toutes les stratégies que Fritz Lang met en œuvre pour faire refluer de l'imaginaire de chaque détail. Alors pour ça, ce qui est très intéressant, c'est de et je dis ça pour chaque fois qu'on analyse un film, le début est crucial. La façon dont le film commence est toujours très programmatique et contient énormément des clés pour comprendre le film. Et ce qui est très frappant dans Le Secret derrière la porte, bon, c'est d'abord, je m'arrête très rapidement sur l'image du générique, qui est une espèce de dessin de porte un peu déformé, encore une fois esthétique presque expressionniste dans la déformation des traits, sur un paysage vague, etc. C'est très schématique, c'est très graphique, et ça fait penser un petit peu aux œuvres du peintre Giorgio de Chirico, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, qui peignait des paysages un peu métaphysiques, presque des paysages intérieurs, en quelque sorte. Et voilà, bon, il y a ce dessin qui est assez intéressant, parce qu'il va symboliser voilà, la porte, le tabou, l'interdit, en quelque sorte. Mais la façon dont le film commence est très frappante parce qu'il s'ouvre sur une image de rêve, une image rêvée en quelque sorte. C'est un cours d'eau, hein, que la caméra va caresser, glisse au-dessus de ce cours d'eau, avec quelques gouttes qui tombent au début et puis des choses qui se reflètent. Hein, ce sont des reflets dans l'eau sur lesquels Fritz Lang nous invite à nous attarder d'abord. L'image d'un bateau de papier, puis des jonquilles qui se reflètent à la surface de l'eau, comme ça. Et on a ici, dès le début, une forme de symbolisme très marquant, parce qu'on est dans l'espace du rêve, et que, tout à coup, en commençant par cela, par les symboles qui jaillissent du rêve, le bateau, les jonquilles, puis les autres reflets qu'on repère dans l'eau, Fritz Lang nous invite à une posture analytique, c'est-à-dire d'analyser les signes qui apparaissent à l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Quelle est sa signification? Pourquoi les jonquilles? Et on est aidé en cela par une voix off, et la voix off est un dispositif très important du film, une voix off qui nous attarde sur la signification que ces objets-là peuvent prendre dans un rêve. Le bateau est un augure plutôt positif. Les jonquilles, par contre, c'est un signe de la pulsion de mort, c'est un augure de funèbre. Hein, donc voilà, dès le début, il nous met en position de devoir analyser les choses, faire attention aux objets et à leur signification symbolique. Hein, donc c'est une posture vraiment particulière. Et on va voir que le film lui-même, dans tout le début et même par la suite, laisse aux objets une place extrêmement importante, qui les pétrie d'objets à double signification, à double sens, comme par exemple les candélabres que Célia va couper, la clé qu'elle va essayer de reproduire, etc. Tous les objets ont un double sens, une signification profonde, comme par exemple le brin de lilas qu'elle va mettre à son veston, qui va provoquer chez Marc une drôle de réaction. Voilà, c'est tout un univers d'objets, de signes, hein. Plus que des objets, ce sont des signes, qui sont toujours réversibles, qui ont toujours un double sens et qu'on peut prendre de diverses façons. Donc voilà, ça c'est ce qui est introduit par le début. La voix off de Cilia est celle qui guide le récit. Et elle a une importance déterminante parce que c'est l'instance qui nous promène, qui nous trimballe à travers toutes les scènes. Et elle est extrêmement particulière, cette voix off. Ça a d'ailleurs été le principal objet de litige lors du tournage et dans la vision que Lang avait du film, parce que dans son idée, à Fritz Lang, cette voix off était dite par une autre actrice qui n'avait rien à voir avec Joanne Bennett. Il voulait en faire de la voix off un personnage à part entière, un personnage indépendant, si on veut. C'était l'intériorité de Cilia, bien sûr, mais c'était dit par une autre voix, comme si l'intériorité, c'était une autre voix étrangère qui parlait au fond de nous, en quelque sorte. C'est ça qui était crucial pour Fritz Lang. Et c'est ce que le studio n'a pas accepté, en tout cas pas le studio, pas la maison de production qui était la sienne, mais le distributeur Universal a dit non, stop, c'est pas possible, on comprend rien, et on va mettre la voix de l'actrice Joanne Bennett pour que ce soit plus compréhensible par le grand public, en quelque sorte. Mais voilà, ça a été l'objet d'un litige, cette voix. C'est pour dire qu'elle est très importante. Et surtout, même si c'est finalement Fritz Lang a dû accepter que ce soit Joanne Bennett qui parle, que pour le spectateur ce soit plus clair, plus évident, cette voix, elle est très particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est comme chuchotée. Elle est très différente des voix habituelles. Chuchotée, retournée vers l'intérieur, presque rêveuse, et flottant dans les faits qu'elle décrit, sans grande précision. Hein, là, comme ça, quelque chose d'embrumé, de nébuleux. Et elle nous guide presque comme un mystère, cette voix off. Hein, et ce qu'elle nous dit au début du film, la première scène, la façon dont le film commence, est très perturbante, parce que on se retrouve au beau milieu d'un mariage. Voilà, c'est un mariage dans une petite église espagnole qui a plus de 400 ans, etc. Et la voix off, qui est celle de l'héroïne, de Cilia, nous dit qu'elle se marie presque sans savoir pourquoi. Elle le fait, mais elle n'en connaît pas la raison. Elle est peut-être en train de faire une erreur, mais elle insiste. Et ça, c'est tout le paradoxe comportemental qui concerne la psychanalyse de près. Hein. Pourquoi fait-on toujours le contraire de ce qu'on veut? Pourquoi agit-on sans véritable motif? Qu'est-ce qui nous remue à l'intérieur et qui fait qu'on agit de telle ou telle façon? Donc elle se marie sans trop savoir pourquoi. Et ce qui est très intéressant dans cette première partie du mariage, parce que le mariage est scindé en deux. Hein. On a une première partie au début du film, puis un flashback pour nous expliquer comment on est arrivé là, et ensuite la fin du mariage. Donc il y a une espèce de structure d'emboîtement. Hein. Les scènes sont emboîtées les unes dans les autres, une sorte de mélange, rien n'est linéaire, parce que la construction du film, et c'était la première collaboration, pas la première collaboration, mais en tout cas le début d'une aventure au long cours entre Fritz Lang et la scénariste Sylvia Richards, qui a écrit plusieurs de ses scénarios, mais la construction du film est elle-même labyrinthique. Hein, elle n'est pas linéaire, on ne nous raconte pas les choses dans l'ordre, c'est selon les hasards et les fluctuations de l'esprit qui, quand il se laisse aller, saute d'un événement à l'autre, peu importe la temporalité et la chronologie. Hein, l'esprit n'est pas chronologique, il avance par zigzag en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que le début du film est extrêmement perturbé. Mais ce qu'on peut retenir de la première partie de ce mariage, déjà la voix off, comme je vous l'ai dit, insiste sur le fait que Cilia ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Pourquoi elle épouse si rapidement cet homme? Elle a beaucoup d'objections à l'intérieur d'elle-même. Surtout, l'homme avec lequel elle se marie, est d'abord filmé de dos. Hein, c'est un travelling qui s'approche de lui, mais on ne voit pas son visage, on voit d'abord sa nuque. Hein, il n'est pas filmé frontalement. C'est-à-dire que dès le départ, cet homme est un mystère. C'est quelque chose qui n'est pas encore élucidé, on ne le connaît pas, et cette silhouette de dos est évidemment inquiétante. D'abord, son visage ne nous est pas révélé. Drôle de façon de présenter un personnage, hein, que de le filmer de dos. Et surtout, on nous indique qu'il va falloir essayer de comprendre qui il est. Voilà, et ça va être en effet tout l'objet du film. Mais c'est un peu pareil pour ce qui concerne le personnage de Cilia, qui s'avance en robe de mariée, comme ça, depuis les profondeurs de l'église. Mais surtout, ce qui est très important dans ce moment-là, c'est qu'elle va passer de l'ombre à la lumière. Vous l'avez sans doute remarqué, elle apparaît dans l'ombre comme un fantôme, comme une silhouette noire. Et encore une fois, on aperçoit la silhouette du personnage avant de voir son visage. C'est une façon de retarder les choses, hein, pour Fritz Lang, et de nimber toutes ces figures d'une espèce de mystère fondamental qui fait que, ben voilà, on ne décrit pas un personnage en 2-3 coups de cuillère à peau avec quelques caractéristiques, etc. On pose d'abord le mystère. Le personnage est inconnaissable, c'est un point d'interrogation, et c'est tout le travail du film qui va consister à faire remonter ce qu'il est, qui il est, sa personnalité. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en passant de l'ombre à la lumière, Cilia, ça c'est un truc que le film ne va cesser de reproduire par la suite, elle franchit un seuil. Il y a l'ombre, il y a la lumière, et elle va traverser le seuil, elle va dépasser le seuil. C'est-à-dire qu'elle va passer d'un état à un autre, de l'ombre à la lumière, peut-être, de la lumière à l'ombre. Enfin, ça, il y a plusieurs configurations comme ça au cours du film. Mais ce qui est important, c'est le seuil. Le seuil qu'on dépasse, le seuil de la transgression, le seuil de l'état conscient à l'inconscience, d'un état mental à un autre, etc. Remonter dans les couches de l'inconscient et du subconscient. Dépasser tous ces seuils-là pour accéder finalement au mystère, au secret enfoui dans les profondeurs. Voilà, ça c'est un des grands motifs du film, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous pouvez regarder toutes les scènes comme ça si vous voulez. Il y a toujours, ou en tout cas la plupart du temps, la traversée d'un seuil. Ce seuil qui est pas là. Et ça, bon, encore une fois, c'est. On ne va pas faire une leçon de psychanalyse, mais c'est quelque chose qui est très important aussi dans la théorie analytique. Quoi. Voilà. Donc, traversée d'un seuil, puis il y a un premier flashback. Premier flashback, alors, voilà, comme on l'a dit, la construction est extrêmement heurtée, fragmentée, nous invite, elle aussi, à traverser le labyrinthe mental, les couches du temps, etc. Mais on va arriver presque à une scène d'introduction qui est la plus réaliste du film, celle où on va découvrir Cilia, on va découvrir qui elle est, ce qu'elle était avant de se marier, et comment elle en est arrivée à ce mariage. Et d'abord, c'est une scène à New York, auprès de son frère, où on va découvrir un personnage un peu frivole. Cilia nous est présentée comme ça, comme une citadine, qui ne veut pas vraiment se fixer, qui a des engagements un peu fragiles, et qui circule d'homme en homme comme ça, en repoussant toujours la perspective d'une union plus solide. Et son frère l'encourage voilà, vraiment à se marier, à tomber amoureuse, à vraiment fonder un foyer, etc. Il la pousse à une forme de normalisation, en quelque sorte, à rentrer dans le corps social. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est présentée selon cette frivolité. Hein, comme une petite citadine, on dirait une belle au bois dormant par la suite, quelqu'un qui vit dans un état presque insouciant, voilà, un état d'insouciance. Et il y a une première option qui lui est présentée, c'est le fameux avocat de son frère, Bob, qui tout à coup s'invite dans la pièce, et qui va lui présenter une sorte de mari légitime, en quelque sorte, ou de fiancé légitime, quelqu'un avec qui elle peut mener une vie normale, bien ancrée, bien voilà, un époux légitime, mais probablement, c'est ce que va laisser deviner la suite du film, un peu ennuyeux. Il y a quelque chose, voilà, Bob est amoureux d'elle, il lui dit, à la mort de son frère, il va gérer sa fortune, mais voilà, il représente une option de mariage, d'installation, de la norme, quoi, en quelque sorte. Et une forme d'ennui pour elle. Hein. Se ranger, c'est en quelque sorte être voué à une sorte de routine. Et on sent bien que avec ce Bob, il y a une sorte de mariage de raison qui se profile, mais pas vraiment de désir. Le désir va apparaître plus tard, dans le voyage au Mexique que Bob l'invite à faire pour se remettre un petit peu du décès de son frère et ruminer la proposition de mariage qu'il lui a faite. Et là, c'est très intéressant parce que dans la scène au Mexique, dans le voyage au Mexique que Cilia a fait avec une amie, un couple d'amis, va apparaître la scène originelle de son désir. Et c'est vraiment la question du désir, de son désir à elle qui va être au cœur de tout le film. Cette scène apparaît, alors c'est la scène originelle freudienne, quoi, en quelque sorte. Hein. Elle apparaît sur le marché et tout à coup, elle tombe sur un combat au couteau, hein, entre deux hommes qui se battent au couteau pour une femme. Et tout à coup, alors ce qu'il faut bien remarquer dans ce passage-là, c'est que son regard à elle est happé par cette scène. Hein, elle est totalement conquise, hypnotisée. Ouais, j'emploie le mot à dessein, hein, l'hypnose... sera aussi c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé Fritz Lang dans sa période muette. Et là, le personnage de Cilia est comme hypnotisé par ce combat de rue au couteau. Parce qu'il y a là-dedans un danger, quelque chose de primitif et donc d'excitant. C'est excitant. Et la mise en scène est extrêmement intéressante parce que Fritz Lang fait un travelling, c'est-à-dire la caméra qui s'avance ou qui recule, pour montrer à quel point le regard de Cilia se fixe sur la scène et est happé par la scène. Hein, le travelling, quelque part, prolonge son regard à elle, crée une ligne de désir vers cette scène où elle va remarquer non seulement la violence qui éclate en pleine rue, comme ça, subitement, de manière imprévue, il y a quelque chose de très direct, mais aussi elle remarque le désir de la femme qui est au centre de cette scène. Sa satisfaction que deux hommes se battent pour elle, en quelque sorte. Hein. Il y a un moment, un plan fugace sur le sourire qui apparaît sur son visage, parce qu'elle est disputée par deux hommes, et qu'on se bat pour elle, et que quelqu'un va, évidemment, remporter le combat. Il y a quelque chose du désir qui se cristallise lors de cette scène. Et on disait que la caméra, par un travelling, fixait la ligne de regard et de désir de Cilia, mais il y a aussi autre chose qui amplifie ça, c'est le couteau qui est lancé par un des assaillants et qui va se planter à côté d'elle, presque comme un dard, comme une flèche, hein, qui matérialise encore une fois le désir qui l'unit à cette scène. Mais il y a une triangulation. Ça, c'est intéressant, c'est un triangle qui se forme avec un autre regard qui apparaît dans la foule. Et qui est un regard qui était presque déjà là, parce que quand on le découvre, il est fixé sur Cilia. Hein? Donc ce triangle qui se forme entre la scène originelle du désir primitif, hein, celui simplement, vraiment primitif, c'est-à-dire les deux mecs qui se battent pour la femme, quoi. Alors, c'est vraiment la situation de base quasi préhistorique du désir, quoi. Et puis cet autre homme dans la foule qui est là au bon moment et qui déjà la regarde. Son regard était antécédent, en quelque sorte. Hein. Il était déjà là avant. Et voilà, ça, c'est le désir qui se noue. Évidemment, remué de l'intérieur, Cilia va transférer son désir sur cet homme-là. Hein, presque d'office, en quelque sorte. C'est décidé. C'est scellé, c'est le corps qui décide, c'est le regard qui se fixe à ce moment-là. Et l'histoire d'amour naît comme ça. Bob, le prétendant un peu ennuyeux, avocat à New York, est balayé. Et ça va être ce danger primitif qui va nouer le désir de l'héroïne. Voilà. Vous avez compris un petit peu l'alternative qui se passe dans le film. Et tout le film, par la suite... notamment l'exploration de la maison de Marc, va être l'explication de ce paradoxe du désir. C'est-à-dire que le désir est inexplicable, il va toujours vers le danger, il nous fait prendre des risques. Et une des grandes questions du film, d'ailleurs, quand on voit un peu le parcours de Cilia, c'est pourquoi est-ce qu'elle reste? Qu'est-ce qui fait qu'elle voit bien qu'il y a du danger partout? Qu'on menace de la tuer, que ce Marc est très étrange et que quelque part elle n'est pas en sécurité. Mais c'est ça le désir, c'est le contraire de la sécurité justement, hein. C'est quelque chose qui nous met en danger et qui explique en quelque sorte le comportement de Cilia à ce moment-là. Voilà, donc la rencontre avec Marc se fait, des scènes d'amour, alors évidemment les augures se multiplient, hein. Comme je vous le disais, le film est pétri de signes, comme cette petite fontaine où ils se retrouvent tous les deux romantiques et on va jeter une pièce pour, voilà, pour se créer une bonne fortune et c'est à ce moment-là qu'ils s'embrassent. Mais surtout, il va y avoir un moment très important, c'est quand ils sont allongés tous les deux dans le hamac, dans la hacienda, là où ils passent un peu de temps tous les deux, et où Marc va exposer sa théorie d'architecte, en quelque sorte. Hein. Il est architecte, et pour lui, ce qui le fascine, il le dit, c'est les pièces de félicité. Hein, il a ce mot de félicité, dont on va s'apercevoir au cours du film qu'il a un double sens, hein, qui n'est pas celui auquel que lui prêtait Cilia d'abord. Hein. Elle analyse le mot félicité comme le bonheur, voilà, la joie, etc., l'amour idéal. Elle idéalise le terme. Et il va se révéler bien différent. Là, on est typiquement dans une situation de lapsus, hein, un mot auquel on donne un autre sens. Voilà, c'est un des grands motifs, là aussi, de la psychanalyse. Mais ce qui est important, c'est que Marc expose sa théorie de l'architecture. Il dit, pour lui, une bonne architecture, une pièce qui fonctionne bien, un lieu qui fonctionne bien, c'est quand le décor, la façon dont le lieu est construit, induit précisément ce qui va se passer. Alors, on comprend au début que ça peut être le bonheur du couple. La hacienda elle-même, l'angle consacre des panoramiques à la façon, à l'architecture assez complexe faite d'arcs, d'arceaux, comme ça, qui se croisent dans la hacienda, hein, qui est d'ailleurs presque une sorte de piège déjà, hein, qui se referme sur eux, qui se referme sur Cilia sans qu'elle le sache. Mais surtout, le fait que Marc mise comme ça sur l'harmonie entre la pièce et l'action qui doit s'y dérouler est vraiment quelque chose qui concerne le cinéma de Fritz Lang. C'est presque Lang qui nous dit sa théorie de cinéaste à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire que le lieu, c'est un cinéaste de l'espace. Et l'espace, pour lui, doit quelque part induire quelque chose de l'action. Il est configuré pour l'action qui doit s'y dérouler. L'espace est une projection mentale qui induit un certain type d'acte, soit et très souvent la violence. Hein. La violence émane du lieu chez Lang. Ça, c'est extrêmement important. Surtout, Cilia se trouve face à un homme dont elle ne comprend pas le comportement. Il y a quelque chose chez Marc qui est insaisissable, c'est qu'il change d'attitude d'un moment à l'autre. Il peut être extrêmement aimant, et puis tout à coup, devenir froid d'un moment à l'autre. Ce n'est plus le même homme. Il se renverse intérieurement, il y a un déclic qui fait que tout à coup, il est froid et il s'en va. Hein? Alors, après une embrassade chaleureuse, voilà, un baiser, tous les deux sur le hamac, etc., il devient extrêmement distant et il est sur une ligne de fuite, il s'en va. Donc c'est une relation qui est extrêmement ambivalente et surtout qui est guettée par ce qu'on pourrait appeler chez le personnage de Marc une forme de schizophrénie. Schizophrénie, c'est-à-dire une scission, une division intérieure, qui fait qu'il semble avoir deux personnalités complètement antagonistes à l'intérieur du même homme. Voilà, donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Mais surtout, pour bien appuyer sur le fait que la scène primitive de cette relation entre Cilia et Marc est celle du désir, c'est que on est toujours dans la hacienda et les deux personnages ont passé une bien étrange lune de miel. Il n'y a pas de lune de miel, en fait, car grâce au discours de sa servante, Cilia va essayer de retarder le moment de la consommation sexuelle avec Marc, qui est un peu le sous-texte du film, en quelque sorte. Hein. Ils doivent faire l'amour, c'est leur lune de miel, etc. Mais elle ferme la porte à clé en le faisant attendre. Voilà, il faut le faire mijoter un peu, selon les conseils de la servante. Hein. Elle lui dit, la femme est patiente et l'homme ne l'est pas du tout. Voilà, donc le message, c'est de le faire attendre un petit peu. Mais de cette attente va naître un plan extrêmement important, c'est celui de la poignée de porte. Hein, il y a quelqu'un derrière la porte, on ne sait pas qui c'est, on ne peut que deviner, et qui essaye de rentrer dans la chambre de Cilia. Quelque part, c'est aussi une image du désir et de la frustration qui va avec, hein, cette porte qu'on essaie de forcer, dans laquelle on essaie de rentrer, mais qui est bloquée. Quelque chose du désir ne peut pas s'accomplir, est arrêté à ce moment-là, et toute la question qui va se développer entre les deux, ça va être comment accéder au désir. De quoi est-ce qu'il est fait? De quelle image mentale il est construit? Et ça, c'est vraiment très fort parce que c'est posé à ce moment-là. Je vous disais que pour Cilia, il va s'agir de déchiffrer la personnalité de Marc. Mais ce qui est très important dans cette scène, vous l'avez remarqué, c'est qu'il y a le miroir où se reflète l'image de Cilia à ce moment-là qui est en train de se coiffer. Vous vous rappelez de ce plan, hein? Et le miroir va avoir une grande importance dans le film. Le reflet de Cilia, elle va être cernée par les reflets d'elle-même. Ce qui me fait dire, et bon, je suis peut-être resté trop longtemps assis, donc je me lève, hein, pour vous parler, ne vous inquiétez pas, voilà, ça sera plus à l'aise. Ce qui est important, c'est que l'enquête qu'elle va faire sur Marc est aussi une enquête qui la concerne. Et en quelque sorte, dénouer sa personnalité à lui, c'est aussi se comprendre elle-même et la nature de son propre désir, si vous voulez. C'est un peu ça le rôle du miroir dans le film. C'est-à-dire que ce mystère qui concerne cet homme qui est très, qui est quasiment schizophrène, très ambivalent, eh bien, va l'amener elle-même sur la voie de son propre désir à comprendre de quelle zone obscure et trouble est fait son propre désir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce qui va se passer. Donc, ça, c'est la première partie du film. Elle est déjà extrêmement intéressante, très riche. Puis va arriver l'exploration de la maison, l'arrivée dans la maison de Marc, qui est un peu son sanctuaire, en quelque sorte, où gît tout son propre passé. Il faut remonter les fils du passé pour essayer de comprendre un peu plus ce qu'il est. Alors là, c'est absolument passionnant parce que l'arrivée de Cilia à Leventhal, enfin au domaine, dans la maison, est marquée par la découverte de tous les personnages qui l'animent. D'abord, une étrange assistante qui se cache derrière la fenêtre, derrière le rideau de la fenêtre, hein, qu'elle aperçoit comme ça en contre-plongée, dès qu'elle arrive sur le seuil de la maison, encore une fois un seuil. Et c'est un personnage assez inquiétant qui l'observe. Il y a une forme de surveillance, hein, plongée, contre-plongée. Alors, elle l'aperçoit vers le haut, mais il y a aussi l'angle. Insiste aussi sur le regard de cette femme qui est cachée dans les hauteurs, sur Cilia, qui tout à coup est piégée par la contre-plongée, surveillée, vue du dessus, hein, dans une vue surplombante, qui appuie comme ça sur ce regard. Et ça aussi, c'est très intéressant, parce que tout à coup vont apparaître des personnages qui n'étaient pas prévus. David, le fils de Marc, hein, elle ne soupçonnait pas son existence non plus. Donc cette maison est pétrie de secrets, il faut fouiller un petit peu comment elle fonctionne. Il y a des personnages cachés, Miss Robbie, donc cette assistante, qui elle-même est une forme, a dans sa façon de se présenter aussi quelque chose de caché, puisqu'elle a cette idée géniale de langue, hein, qu'on repère, qui est à la fois... qui signale une forme de perversité du personnage, le fait qu'elle se cache le visage avec une voilure, une écharpe comme ça, une partie du visage, censée être brûlée. Mais ce qui est très intéressant aussi dans le film, c'est que ce qui est caché, souvent, ne cache rien. Hein, on revêt comme ça d'un voile de mystère quelque chose qui est absent. Hein, plus tard, ce visage se révélera ne pas être brûlé du tout. C'est une astuce de cette assistante pour garantir sa position dans la maison et sa présence auprès d'un Marc qu'elle aime secrètement. À un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce plan, mais Cilia débarque dans la réplique de sa chambre, qui est contenue dans les pièces du bas, elle ouvre un rideau, et derrière ce rideau, qu'est-ce qu'il y a? Un mur de briques. Hein, souvent, derrière ce qui est caché, ce qui est interdit d'accès, ce qui est voilé, ne se cache rien. Hein, c'est un leurre, c'est une illusion. Et le film est fait entièrement de fausses pistes. Lui aussi, il va semer des illusions sur son chemin. Alors, ce qui est très intéressant pour résumer un petit peu et essayer de caractériser les grandes lignes du film, on a parlé déjà du franchissement des seuils. Il y en a plein dans la maison, vous les observerez. Voilà, si vous revoyez le film, vous verrez ça. Mais surtout, la situation qui va être celle de Cilia à l'intérieur de cette maison, c'est de l'arpenter, de découvrir comment elle est faite, hein, ses différents niveaux, ce qu'elle cache, ses pièces, etc. Alors, il y a évidemment le grand escalier qui mène aux chambres au premier étage, et sur le mur duquel sont disposés des masques grotesques, primitifs, hein, des figures comme ça, assez inquiétantes. Alors, le masque, voilà, le masque, ça fait partie aussi de la théorie freudienne, bon, j'insiste pas là-dessus. Mais surtout, ça va être de montrer Célia qui s'avance dans des couloirs, qui marche presque, qui déambule, presque comme une somnambule d'ailleurs, hein, parce que c'est souvent la nuit, où elle est happée par ces grands couloirs, voilà, seule. Fritz Lang répète souvent ce plan, hein, qui revient de manière insistante, celui où tout à coup le point de vue se recule, et on va découvrir Célia en plan large, dans un couloir vaste, où est semé d'ombre, comme ça, hein, très, très obscur, où tout à coup l'espace autour d'elle implique une forme de danger, hein, de la voir comme ça éloignée dans le plan. Fritz Lang prend soin de creuser les perspectives, et tout cet espace qu'il y a autour d'elle semble à la fois l'absorber, l'emprisonner, et en même temps la menacer, quoi. On ne sait pas d'où le danger va surgir. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Intéressant aussi, je vous dis que le personnage est un somnambule. Oui, ben évidemment, alors c'est marrant parce que quand elle arrive dans la maison, elle se présente à la sœur de Marc, Caroline, je crois, Carrie, comme quelqu'un qui dort tard le matin, elle fait la grasse matinée, elle ne veut pas se lever, elle se lève à midi, etc. Mais pour découvrir la pièce cachée de Marc, elle va veiller la nuit, hein, elle va rester, elle va se forcer à rester réveillée. Et il y a beaucoup de parties noctambules du film, hein, c'est-à-dire voilà, où tout à coup, là, dans la maison endormie, Cilia se met à marcher, à l'arpenter comme un labyrinthe. Et il y a évidemment une part d'onirisme là-dedans. Hein, on ne sait pas exactement si on est dans l'espace de la réalité ou dans l'espace du rêve nocturne. D'ailleurs, vous vous rappelez certainement de ce passage où Marc s'est encore enfui, il est passé dans une phase lunatique, elle s'endort dans son lit et elle entend tout à coup une voiture arriver. Et là, on ne sait pas très bien si le bruit de la voiture appartient à son rêve. En fait, ça s'avéra être la réalité. Elle reçoit un télégramme de la part de Marc. Mais voilà, les scènes où elle s'endort, où elle se couche, où elle se réveille, où elle est sur son lit, sont bien évidemment caractéristiques parce qu'ils nimbent le film comme ça, d'un flottement de rêve, quoi, en quelque sorte. Hein. Il y a une aura de rêve. On ne sait jamais très bien si on est d'un côté ou de l'autre. Alors évidemment, une des idées de génie du film, c'est les fameuses pièces que Marc collectionne. Et cette idée de la félicité, de la félicité de l'architecture, ce n'est pas du tout quelque chose d'heureux. Ça implique une harmonie, mais une harmonie dans le crime, dans le meurtre en quelque sorte, hein, puisque ce sont à chaque fois des scènes de crime, comme il les présente à ses invités lors d'une réception. Scènes de crime, alors il y en a une dans l'aristocratie française d'un siècle ancien, l'autre dans un bayou de Louisiane où l'eau est montée pour une noyade, un troisième, plutôt une scène espagnole avec un Don Ignacio qui tuait plusieurs femmes. Voilà, donc à chaque fois, il s'agit de tuer sa femme, sa mère, etc. Il y a une espèce de conflit avec les figures féminines familiales comme ça qui invite aussi à beaucoup réfléchir à la théorie freudienne, qui faisait de la scène familiale la source de tous les traumatismes et des névroses comme ça des individus. Et donc, il signale à l'endroit de Marc une relation trouble, conflictuelle et extrêmement marquée avec sa propre mère, hein, et qui entache toute sa relation aux femmes. Il le dira à un moment, il a été dominé toute sa vie par les femmes et il y a au fond de lui comme ça une revanche, une vengeance à prendre envers elle qui crée une espèce de pulsion de mort, une pulsion meurtrière. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est des fausses pistes que le film place dans l'exploration de Cilia. Fausse piste, la première fausse piste est celle d'un homme qui serait cupide, vénal, parce qu'on découvre que Marc est à court d'argent, qu'il essaie de vendre son magazine, etc. Et dans les réceptions, la rumeur mondaine. Voilà, on imagine qu'il a épousé Cilia pour sa fortune. C'est une première fausse piste, il n'en est rien. Deuxième fausse piste, qu'il a tué sa femme. Voilà, c'est ce que dit David, son fils, à un moment. Il a tué ma mère, etc. Bon, c'est une piste qui ne sera pas avérée non plus. La vraie question du film, ce qui se noue à la fois chez Marc et chez Cilia, c'est la question du désir, hein, comme je vous le disais. De quoi est fait le désir? Comment est-ce qu'il peut se dénouer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut accorder comme ça ces choses aussi troubles et aussi instables que sont le désir masculin et le désir féminin, qui sont faits chacun d'éléments tellement différents et tellement opposés qu'il semble qu'on ne peut jamais les concilier? Eh bien, le film avance justement là-dedans. C'est très marquant, et voilà, c'est une idée de génie aussi, je trouve, que la pièce cruciale, celle que découvre Cilia quand elle arrive à Lavender Falls, c'est celle de sa chambre, c'est la chambre à coucher, hein, qui est le lieu fondamental du film. C'est pas rien, c'est là où doit être consommé le mariage, et c'est pas anodin aussi que le personnage de Marc fasse chambre à part, et qu'il arrive, hein, il a d'autres appartements, et on apprend que Il ne couche plus dans cet endroit qui est réservé à Cilia à cause du conflit qu'il a eu avec sa précédente femme, Éléonore. Hein, donc il y a quelque chose d'une union qui ne peut pas se faire entre les deux personnages, d'un mariage qui n'est pas tout à fait consommé, y compris sur le plan sexuel, chose que le film ne peut pas aborder frontalement, évidemment, parce qu'on est à une époque, les années 40, où un code d'autocensure pèse sur le cinéma hollywoodien. On n'a pas le droit d'aborder frontalement ce sujet, ni une certaine forme de violence, etc. Mais c'est bien l'arrière-fond du film, et c'est pour ça que la chambre à coucher est au cœur de l'enquête de Cilia. Chambre à coucher qu'elle va découvrir répliquée ou originale, parce que peut-être que sa vraie chambre à coucher n'était elle-même qu'une réplique, mais qu'elle va découvrir dans les soubassements de la maison, comme la pièce secrète, voilà, ce qui cachait évidemment la porte fermée à clé, c'est un reflet de la pièce. Encore une fois, le motif du reflet réapparaît ici. Hein. C'est comme à travers un miroir, une réplique de sa propre chambre. La scène à coucher, enfin la chambre à coucher et la scène interdite, le lieu du tabou. Hein. Pour Marc, c'est quelque chose, l'espace brûlant, celui qui est interdit en quelque sorte, parce qu'il est marqué pour lui, par une pulsion de mort. C'est là qu'il cherche évidemment à compléter un petit peu ses autres pièces et tout ce qu'elle raconte par un meurtre final. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, importance des objets, c'est la différence de taille de la bougie qui va permettre à Cilia de comprendre ce qui se trame dans la pièce, le fait que tout cela se referme sur elle comme en miroir. Et évidemment, à ce moment-là, le film a monté toute une architecture qui est à la fois, comme on le disait, réelle et rêvée. Hein. Et le parcours de Cilia, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir à partir d'un moment un renversement de perspective dans le film. Il y a un crescendo, si on veut. Hein. La découverte de la pièce est suivie d'une scène très graphique, très plastique, où Cilia se perd dans les jardins de la villa, à travers une brume qui monte. Et là, on a évidemment tout le décorum du cinéma et de la littérature gothique dont je vous parlais auparavant, hein. La brume, etc., la silhouette qui apparaît dans la profondeur de champ et qui menace de rattraper la jeune femme, qui est, le devine-t-on, celle de l'assassin, ce qui est évidemment une fausse piste, ça n'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça culmine quand même dans un décor gothique qui, tout à coup, par la présence de la brume, le vent dans les arbres, rejoint encore une fois le domaine de l'onirisme, le domaine du rêve, et fait refluer tous les accents du passé. Voilà, ça c'est une partie importante, mais ça précède un renversement. C'est-à-dire que jusqu'alors, la voix off était celle de Cilia, ça témoignait de son intériorité. Et puis, tout à coup, dans le film, il y a un renversement de perspective. C'est Marc qui va prendre les rênes du récit. Ça, c'était assez inattendu. Et par une scène tout à fait étonnante, celle où il imagine son propre procès. Alors là, on est dans le domaine du fantasme pur. Et la mise en scène de ce procès en témoigne, puisque c'est extrêmement épuré. Il n'y a pas vraiment de décor, c'est fait sur des toiles de fond assez uniformes. Et tous les rôles de cette scène sont joués par Marc, sinon par des ombres dont on ne voit pas le visage. Hein, donc, on est là carrément dans une scène mentale. Tout ça pour vous dire que le film n'arrête pas de circuler entre le décor réel, la scène mentale, la réalité, l'imaginaire. Et là, on est projeté dans le fantasme de Marc, qui s'imagine jugé pour ses désirs, pour ses pulsions intérieures, hein, qui l'imagine lui-même meurtrière, qu'il définit comme meurtrière, puisqu'il s'empare du fameux foulard de Don Ignacio pour... ensuite, on l'imagine commettre un forfait. Mais ce qui est très intéressant aussi dans le film, c'est la question que je vous disais, que je supposais tout à l'heure, c'est pourquoi Cilia reste malgré tout ? Si vraiment elle est menacée de mort, si elle sent que voilà, un piège se referme sur elle, que Marc est à deux doigts de la tuer, qu'est-ce qui fait qu'elle insiste, qu'elle reste dans cette maison, que même après avoir été poursuivie dans les jardins embrumés, elle revient à un moment par la porte, dans la profondeur de champ, elle repasse le seuil de la chambre, hein, comme pour se confronter avec Marc dans cette fameuse chambre où doit être accompli le crime final. C'est peut-être parce que toute cette histoire est un fantasme aussi d'elle-même. Non pas un rêve ou quelque chose d'imaginé, mais le soupçon de crime, de brutalité, de violence qui pèse sur Marc n'est jamais vérifié en quelque sorte. Hein, rien ne prouve qu'il a tué sa femme précédente. Il ne commet pas de crime de tout le film. Il n'est pas un assassin en quelque sorte. C'est une sorte de presque de jeu qui s'établit entre les deux. Hein, un jeu où intervient l'imaginaire, où sont projetés comme ça des fantasmes de violence qui s'originent justement dans la scène où les deux hommes s'affrontaient au couteau au début. Hein, et voyez comme le désir, ici, prend des cheminements complexes, comme il est partagé entre l'homme et la femme, entre l'image que l'un renvoie et l'autre, ce qu'elle choisit de filtrer de lui, et à quel point le film avance d'une manière étonnante là-dessus, ce qui le rend en partie irréaliste. Quand on voit ce film aujourd'hui, il y a une forte part d'irréalité, même d'invraisemblance qui s'attache à l'histoire. Mais c'est totalement assumé par Lang, parce qu'il y a une partie intérieure, une partie mentale, hein, de tout ce récit qui se joue à ce niveau-là. Et donc, ce qui est particulièrement étonnant quand on voit Le secret derrière la porte, c'est que le désir est un travail, une scène qui se joue entre l'homme et la femme et qui implique une forme de violence fantasmée, hein, qui est toujours suspendue, qui est voilà, dans cette situation-là, quelque chose de flottant, et qui rejaillit aussi dans les autres relations familiales qui créent le traumatisme de Marc, hein, puisque le nœud du mystère, ce sera de découvrir que ce n'est pas sa mère qui l'avait enfermée dans la fameuse pièce, mais sa sœur, hein, donc une forme de sadisme qui se joue à l'intérieur des relations familiales, et de masochisme ensuite qui peut se refléter sur le personnage de Cilia, mais aussi... la relation sadique que Marc entretient avec son assistante, dont il sait pertinemment qu'elle est amoureuse de lui, qu'il la laisse lambiner comme ça autour de son bureau, et qui, à la fin, dans un mouvement de rage, va essayer de mettre le feu à la propriété. Et c'est très beau parce qu'un des derniers mots du film, c'est pas la toute dernière scène dans la hacienda, hein, puisque à la fin, il y a un retour dans la hacienda qui crée une sorte de boucle, en quelque sorte, hein, comme si... voilà, il y a un cycle qui se dessine, un retour à la case départ, en quelque sorte. Mais un des derniers mots est laissé à Miss Robbie, qui dit à Marc, je ne savais pas que tu étais là, en quelque sorte, hein, et qui assume sa pulsion meurtrière à elle en reconnaissant qu'elle voulait tuer tout simplement sa femme, Cilia, mais que si ça avait été lui, voilà. Donc, c'est une espèce d'aveu amoureux qui est en même temps un aveu meurtrier. C'est les deux en même temps. C'est assez ambigu et ambivalent. Voilà, donc on a un petit peu ici la structure du film qui se dessine, qui est très sinueuse, qui est... Voilà, qui avance pas à pas vers le continent intérieur qui est celui du secret, hein, qui implique des relations parentales, familiales, des projections intérieures, des fantasmes qui concernent le désir et voilà et l'amour aussi. Donc, on a affaire à un film qui réunit énormément de choses, qui est très complexe, qui est très découpé d'ailleurs, où il y a beaucoup de scènes, hein, il y a beaucoup d'éléments, et c'est évidemment un grand flottement, un mystère profond et fondamental sur la personnalité humaine que nous invite à percevoir Fritz Lang. Mais ce qui est particulièrement frappant dans ce film et qui participe vraiment de son œuvre, c'est à quel point toutes ces zones inconscientes, cette part du désir et du fantasme, sont des choses qui dominent les êtres sans qu'eux-mêmes aient de prise dessus. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de le comprendre. Mais encore une fois, on est dans une scène typiquement langienne où ce sont des forces, alors là, intérieures, qui agissent sur les individus, mais auxquelles ceux-ci ne peuvent pas résister. Hein, voilà, il y a comme ça une espèce de force, de fatalité qui pèse sur eux. Et ce que disent... c'est très intéressant ce que disent les personnages de Marc et de Cilia à la fin du film. C'est « nous avons encore un long chemin à faire ». Voilà, on imagine dans la découverte d'eux-mêmes, dans l'appréhension de leurs propres désirs et dans cette espèce de jeu sadomasochiste qui s'installe entre les deux où il faut qu'il y ait une menace pour que le désir soit activé en quelque sorte. Hein. Donc voilà, le retour à la hacienda marque... aussi un retour à cette scène originale, à cette scène primitive du combat, et au bonheur, espèce de bonheur suspendu et extrêmement fragile qu'il peut y avoir entre les deux personnages. Alors ce qui est très fort aussi, c'est dans Le secret derrière la porte, et qu'il faut noter, c'est à quel point, alors on disait, il y a une part de réalité et d'imaginaire, il y a un basculement entre le jour et la nuit, il y a une série de seuils qui sont franchis en permanence. Tout ça, c'est des choses qu'on a posées, mais ce qu'il faut voir, c'est à quel point ça se traduit à l'image par des plongées dans le contraste. C'est-à-dire que il peut y avoir des scènes éclairées normalement, mais le basculement dans le domaine du rêve, de l'onirisme, de la nuit, de la déambulation, se fait par une amplification des contrastes, c'est-à-dire... on va appuyer sur les zones d'ombre, le noir qui s'étend, les flashs de lumière en même temps qui peuvent strier comme ça les pièces. L'écart entre le noir et blanc se prête particulièrement bien à ça. Hein, c'est la pellicule qui était employée à l'époque. L'usage du noir et blanc est parfait pour créer ce genre de contraste, ce genre d'opposition fondamentale entre l'ombre et la lumière. Et plus Cilia s'enfonce dans les couloirs de la propriété, plus elle remonte vers les origines de son propre secret, plus les contrastes s'amplifient, s'appuient et font peser sur cette maison une forme d'existence fantôme, de spectre, de mystère comme ça qui sont traduits esthétiquement. Et donc ça c'est, il y a aussi là-dedans sans doute quelque chose de l'expressionnisme, hein, un résultat comme ça de une esthétique qui est reprise à l'expressionnisme qui avait marqué les débuts de Fritz Lang. Voilà. Donc ça, c'est très fort. Il y a, comme je vous le disais, dans la succession des pièces, les pièces que Marc collectionne, un récit qui se dessine en creux. Voilà, ça aussi, ça résonne avec la théorie que le personnage expose à un moment de la félicité des pièces. C'est que le récit, le cœur d'une scène se dessine toujours en creux. Hein, on devine par rapport aux éléments qui sont dispersés ce qu'il a pu s'y produire. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est, ça participe du secret de la mise en scène. Qu'est-ce que le spectateur est amené à construire mentalement avec les éléments qu'on lui propose, hein? Quelle jonction il fait entre deux plans? Comment est-ce que l'espace se présente à lui? Qu'est-ce qu'on lui montre? Qu'est-ce qu'on lui montre pas? Il y a dans la conception de la mise en scène de Fritz Lang, dans son idée de l'espace, une forme de structure mentale comme ça, qui est aussi un jeu permanent avec le spectateur et qui l'invite dans ces espaces, comme ça, à appréhender ce qui aurait pu se passer, ce qui va se produire, qui est toujours un jeu entre la réalité des éléments, la virtualité, etc. Et ça, c'est aussi une donnée extrêmement importante. Donc voilà, Le secret derrière la porte, c'est évidemment un film qui va être marqué par l'échec commercial en salle, hein, le film ne va pas marcher, et ça va mettre un coup d'arrêt, comme ça, à l'indépendance de Fritz Lang, l'espèce de rêve d'indépendance qu'il avait eu avec cette petite société de production dont on a parlé, et qui va lui générer une deuxième partie de carrière aux États-Unis un peu plus houleuse. Hein, mais c'est un film quand même qui est très important pour lui parce que se rejoue dans le secret derrière la porte beaucoup de choses de sa période allemande. Hein, l'influence des légendes, on a parlé du conte tout à l'heure de La Belle au bois dormant et de Barbe bleue, les atmosphères oniriques sur lesquelles il jouait beaucoup dans sa période allemande, l'élément nocturne qui compte aussi beaucoup. Voilà, tout cela est évidemment ce qui se manifeste quand on voit le secret derrière la porte et qui rappelle beaucoup de choses des anciens films de Lang. Voilà, écoutez, je crois que... Quelle heure il est ? Je vérifie, voilà, il est à peu près 10 minutes avant la fin. On a fait un peu le tour du film, on a vu à la fois comment il se construisait, qu'il avait moins une logique rationnelle, hein, de récit chronologique qu'une logique irrationnelle menée par le rêve et par le fantasme, ce qui fait que ça... Voilà, ce qui peut peut-être gêner dans ce film quand on le découvre la première fois, c'est justement ce côté un peu illogique, parfois invraisemblable, qui déborde de tous les côtés et qui peut sembler... parfois un peu exagéré, mais c'est justement parce qu'on rentre dans ces domaines mentaux, dans ce labyrinthe mental, qui prend toute sa valeur. Et c'est tout l'art de Fritz Lang d'arriver à jongler entre ces deux données, hein, et de créer un film comme ça qui se déploie sur plusieurs plans, sur un plan imaginaire, sur le plan de la réalité, dans des espaces qui semblent s'étendre même petit à petit à mesure que le film avance, et qui... Voilà, est un reflet particulièrement intéressant de l'esprit humain, en tout cas tel qu'on le conçoit à ce moment-là, parce qu'il faut aussi se dire que le film, il a 74 ans, quoi, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait le calcul. Il est de 47, donc ça, voilà, ça crée une sacrée distance. Mais comme on est à ce moment-là sur la tranche du XXe siècle, à peu près à mi-temps du XXe siècle, voilà, il essaye de caractériser le dédale de l'esprit humain, la complexité, l'ambivalence du désir, tel que le cinéma hollywoodien se prête assez peu à le faire. Il y a ici une forme de complexité, justement, comme on l'a dit, hein, comme on a un peu avancé en essayant de caractériser la relation qui nous marque et Cilia. Il y a une complexité dans l'appréhension du désir, dans l'appréhension de la relation amoureuse, qui est assez inhabituelle dans le Hollywood de l'époque. Et qui est vraiment typique d'un Lang qui essaye de se projeter en profondeur dans ce qui fait la nature indémêlable des comportements humains et de la façon dont les individus ne se possèdent jamais complètement. Voilà. Et ça, c'est le secret derrière la porte. Ce qui est très frappant aussi quand on voit le film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret finalement. Hein, ouvrir la porte ne résout rien. On a le reflet en bloc de la chambre de Cilia, il y a presque un effet de boucle, de retour à la case départ, de répétition en quelque sorte, et toute cette structure très labyrinthique, finalement, fait qu'il y a toujours des portes et des secrets derrière en quelque sorte. Plus on en ouvre, plus le secret se reconduit, et il n'y a jamais quelque chose de définitif et de complètement arrêté dans l'enquête menée par le personnage féminin. Et quelque part, l'esprit humain reconduit toujours son propre mystère. On pourrait à un moment s'arrêter là. C'est tous les effets de miroir, la cage de reflets qui est posée par ce film. J'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous a plu, qu'on a pu explorer quelques pistes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'était une intervention sans extrait, donc sans doute un peu aride. Mais je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, ben, je suis là pour y répondre. Voilà. Les objections, je vous remercie.